Destination Soleil. Merci de vous présenter au comptoir Beurre FM pour l'embarquement.
Destination multiple ce matin, puisque nous allons faire le tour des destinations les plus recherchées au Maghreb.
BNC aux portes, armement des toboggans, vérification de la porte opposée.
De 10h à 11h, tout l'été.
Décalage immédiat.
Philippe Robichon avec Manuel Mariani.
Décalage immédiat.
Sur Beurre FM.
Et nous voyageons ensemble tout l'été, 10h, 11h, sur les destinations que vous préférez, les destinations que vous préférez au Maghreb, et sur la route pour y aller avec le capitaine Manuel Mariani. Bonjour Manu.
Bonjour Philippe.
Globetrotteur gastronomique, vous êtes remis de vos aventures avec Kim?
Absolument.
Bien, la truffe n'y est pour rien, rassurez-vous.
Non, du tout.
En cabine, on a Eddy Nedjari. Bonjour Eddy.
Bonjour.
Voilà, c'est vous hein, qui préparez cette émission, Eddy. Et nous avons avec nous aujourd'hui John Lee 16, bienvenue.
Bonjour.
Est-ce que je prononce bien votre nom ?
Très bien, merci.
Très bien, vous êtes directeur général de Kayak Europe. Qu'est-ce que c'est Kayak, Eddy ?
Kayak, c'est un comparateur de recherche où on peut tout d'abord comparer les vols, les hôtels, les séjours, vols plus hôtels, les trains, les voitures, c'est ça, si je me trompe pas ?
Exactement.
D'accord.
Ça englobe un peu tout.
Enfin, les voitures, les locations, on n'achète pas une voiture sur Kayak.
Oui, exactement, les locations de voitures et les séjours.
D'accord.
Voilà, moteur de recherche dédié au voyage, lancé en 2004 par les fondateurs d'Expedia, Travel City et Orbit. C'est quoi la différence entre Kayak et Expedia, par exemple, qu'on connaît ?
Alors, Expedia, c'est une agence de voyage en ligne, donc un site marchand où vous pouvez finaliser une réservation. Kayak, c'est un moteur de recherche, c'est-à-dire qu'on va comparer justement toutes les agences de voyage et les compagnies aériennes.
Voilà, vous comparez les vendeurs, mais vous ne vendez rien, en fait. Vous, vendez de l'information.
Et
vous l'offrez.
On vend de l'information, exactement. Et je tiens à souligner que Kayak est un site complètement gratuit pour les utilisateurs. Donc, il n'y a aucun frais ou aucun coût à utiliser un comparateur comme Kayak.
Et vous êtes aujourd'hui le leader mondial de recherche de voyages en ligne.
C'est ce qui se dit. On traite à peu près plus de 2 milliards de requêtes par an.
Ah, je vais poser une question peut-être naïve, mais moi, gratuit, ça n'existe pas.
Gratuit, ça...
Quand vous dites que c'est gratuit, vous vivez bien de quelque chose.
Exactement, on a un business model, absolument, mais il n'est pas impacté, enfin, l'utilisateur n'est pas impacté par notre business model qui est finalement un système de rémunération entre l'agence de voyage et Kayak.
D'accord.
Donc, en fait, leur marge diminue, mais l'utilisateur n'est pas impacté par le...
Ce qui est un peu le but du jeu, d'ailleurs, puisqu'on va sur votre site pour faire des économies, en gros, donc...
Exactement. Soit pour faire des économies, soit pour trouver le meilleur vol ou le meilleur hôtel.
C'est le 19 juillet, aujourd'hui, on se situe où par rapport au nombre de recherches dans l'année ? Est-ce que c'est aujourd'hui le pic ou pas encore, ou c'est passé ?
Alors, écoutez, la saison estivale est forcément la saison la plus sollicitée pour les voyages. Si on parle de la région du monde, donc d'Afrique du Nord, les indicateurs sont très très positifs. On voit que le Maroc... a accueilli en 2017 plus de 11 millions de touristes et qui vise 12 millions cette année. Si on regarde
le plus dur effet, on va dire
le plus dur le plus dur effet ou le plus dur reste à faire quand même. Pour ce qui est de la Tunisie, qui a eu aussi une année record l'année dernière avec près de 7,3 millions de touristes, il me semble, qui étaient au-delà des chiffres de 2010, qui étaient de 6,9 millions, vise aujourd'hui 8 millions de touristes.
Alors ça, justement, c'est d'autant plus surprenant. D'ailleurs, Philippe, on a dit qu'on allait faire une émission peut-être un petit peu sur ce sujet précisément. Mais la Tunisie, qui fait partie des destinations encore sur lesquelles le ministère des Affaires étrangères met des réserves pour les voyageurs en disant attention, on vous recommande pas de partir sur la destination Tunisie parce qu'il peut y avoir des risques d'attentats, etc. Et pourtant, on le voit aussi dans vos chiffres, c'est la destination que recherchent le plus les internautes en ce moment. Donc c'est assez surprenant, oui.
Alors, on a 12 millions de touristes pour le Maroc. Enfin, en tout cas, c'est l'objectif pour 2018. 7 300 000 pour la Tunisie. Est-ce qu'on a des chiffres sur le nombre de touristes qui vont en Algérie ?
Alors, en Algérie, c'est un petit peu plus compliqué. On a les chiffres de 2017, effectivement, qui étaient de l'ordre de 2,4 millions de touristes qui ont visité ce pays.
Alors là, on parle de touristes étrangers, c'est-à-dire 2 millions...
Des touristes non résidents.
D'accord.
Voilà, pour être précis.
Voilà, parce que vous, Kayak est un site international, donc vos données sont des données mondiales, on est d'accord.
Exactement. Hein. Mais c'est vrai que pour l'Algérie, elle n'a jamais vraiment joué véritablement le carte du tourisme, en fait, et a très peu investi.
Ça, c'est moins compliqué.
Voilà, si on regarde les chiffres du PIB, par exemple, le tourisme représente 15% du PIB, alors qu'au Maroc, on est à 11%. Ouais. Donc, on voit un petit peu le décalage. Et puis, c'est une infrastructure très modeste, finalement. On parle de 100 000 lits en Algérie, contre près de 300 000 au Maroc. Donc voilà, ils sont un petit peu reposés sur les rentes pétrolières, mais aujourd'hui les rentes étant moins bonnes, on imagine qu'il va y avoir des actions politiques, j'imagine, pour essayer de faire venir le tourisme.
Ça on le voit en préparant l'émission sur les destinations algériennes, qu'effectivement déjà on a du mal à avoir des interlocuteurs au niveau touristique.
Sur une note positive par rapport à l'Algérie, elle a quand même des atouts assez importants. Elle a une longue côte méditerranéenne. Elle a un désert qui est fantastique et elle a des sites antiques que je n'ai jamais visités personnellement, mais qui ont été reconnus par l'UNESCO à plusieurs reprises.
Bah tout à fait. On en parle tous les jours effectivement. Et en plus sur des sites qui sont plutôt encore à découvrir puisque justement ils n'ont pas été beaucoup exploités.
À l'instant, je reçois un message du ministre du tourisme algérien, c'est 1,4 du PIB. Hein. Donc, à ce niveau-là, c'est très important, les virgules.
Ouais, les virgules, les chiffres après virgule.
Ça fait 40% supplémentaire.
Je m'en excuse.
On vous a demandé de compiler les chiffres par rapport à plusieurs critères sur les critères, par exemple, déjà, de savoir quelles sont les villes qui sont les plus recherchées sur un moteur de recherche tel que Kayak au Maghreb.
Alors les villes, on a un classement des 15 meilleures villes en termes de prix. Donc les 5 meilleures villes se situent au Maroc. Donc on commence par Fès, qui a augmenté d'ailleurs ses prix de 10% par rapport à l'année dernière. On se retrouve pour un prix moyen aller-retour de 139 euros.
Oui, alors ça c'est étonnant parce que c'est vrai que Fès, au niveau quand on est sur place, c'est vrai que les restaurants, comme c'est une ville impériale très très touristique, c'est pas une ville qui est en friche encore au niveau touristique. Les prix sont assez importants, mais alors les billets d'avion sont pas chers apparemment.
Oui, exactement.
C'est une moyenne sur l'année, attention. Hein.
Exactement.
Il faut le dire, parce que si vous cherchez pour demain partir à Fès, vous n'allez pas trouver ce prix-là. Hein.
Notre invité vous donne des prix moyens. Hein. Ne nous appelez pas, on n'est pas une agence de voyage en plus. Ne nous appelez pas pour savoir où on achète les billets à 130 euros.
On agrège l'information et la met d'une façon simplifiée pour faciliter la vie des voyageurs, des utilisateurs.
Donc Fès, les destinations number one.
Voilà, suivi de Tanger et Nador en position numéro 3. Mmh. Avec des Nador est d'ailleurs a baissé ses prix sur le prix moyen d'une année sur l'autre. Mais en règle générale, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les prix sont plutôt en tendance à la remonte de 2017 sur 2018.
D'accord. Alors on serait tenté de penser que les prix vont baisser le plus sur des destinations où il y a beaucoup de voyageurs. Alors puisqu'on parlait du Maroc, là, on pourrait parler de Marrakech, Casablanca, etc. Mais en fait non, parce que Fès, Tanger sont pas les destinations number one pour le tourisme. Et pourtant elles sont assez bien placées. Alors est-ce que à votre avis, parce que là par contre, j'imagine que vous n'avez pas ce genre de statistiques chez Kayak, ça remonte pas dans vos tuyaux, mais là c'est l'avis de quelqu'un qui est dans le tourisme un peu tous les jours, ce que je demande, c'est est-ce que il y a peut-être un retour de la mode routard de vouloir partir sur des destinations un peu plus en friche. Non, mais là, c'est votre avis personnel que je vous demande. Hein.
Manu, vous savez, parfois vous posez des questions, Manu, mais la question est dans la réponse.
Bon, je vous la pose à vous. Philippe,
il faut la poser. Franchement, c'est compliqué de subitement de voir l'engouement de certaines destinations. Il y a des explications qui arrivent plus tard, mais par exemple Marrakech, dont on sait que c'est une ville qui a toujours drainé énormément de touristes, on se rend compte que par exemple c'est une ville qui est en quatrième position. Et là, on est en train de parler de prix. Alors toujours
pour rebondir peut-être rapidement au sujet des prix et de l'engouement de certains pays, il est bon de noter quand même la dépréciation de la monnaie locale aussi bien en Égypte qu'en Tunisie ces dernières années, et donc qui favorise justement les départs dans ces pays-là. Ensuite, il y a quand même des gros travaux de promotion dans les pays émetteurs. Je pense à la Tunisie, par exemple, qui travaille énormément avec la Russie et avec la Chine, même les États-Unis, d'ailleurs. Donc il y a des grosses promotions qui sont faites à ce niveau-là.
Oui, parce que la Tunisie, il y a sur le voyage de groupe et sur le voyage club.
Exactement.
Club. Là, il y a quand même c'est quand même une grosse part du marché. Hein.
Et puis il faut pas oublier qu'il y a quand même le retour cette année de grands tours opérateurs comme Thomas Cook. Ou même TUI, qui avait un petit peu déserté les lieux depuis 2015, depuis les attentats malheureusement, et qui sont revenus en force cette année. Et puis vous avez des chaînes hôtelières comme le Mövenpick ou le Four Seasons qui sont installées aussi
à Djerba
exactement. Ouais. Donc voilà, tout ça favorise quand même le retour du touriste.
Voilà, ça fait là. Parmi les villes, on est toujours en train de toujours dégrainer les villes les moins chères. On a laissé donc Nador en troisième position. Quelle est la suite du classement, s'il vous plaît?
Alors ensuite, c'est Marrakech et Oujda pour la destination Maroc. Ensuite, c'est la Tunisie qui vient avec des billets moyens de l'ordre de 180 euros. Donc Tunis et Monastir. Et ensuite, on arrive sur l'Algérie avec Alger comme ville la plus...
Donc c'est la huitième ville et sur l'année, le coût du billet moyen sur Alger, c'est voilà, 189
oui, c'est...
euros.
Oui, on précise bien aux auditeurs, Philippe, c'est pas la fréquentation, c'est pas la fréquentation de la destination, c'est pas le nombre de recherches, c'est le prix moyen du billet, hein, donc du moins cher au plus cher.
Ensuite, après Alger,
on retourne au Maroc avec Rabat et Essaouira, suivi de la Tunisie avec Djerba, Agadir et Casablanca pour retourner sur le Maroc, et on finit avec l'Algérie, Oran et Sfax en Tunisie, avec un prix moyen de plus de 235 euros.
C'est-à-dire que représente
20% d'une année sur l'autre en termes de prix moyen.
Ce qu'il faut comprendre, ouais, c'est qu'un billet, contrairement à l'image qu'on a sur l'année, un billet sur Casa, c'est plus cher qu'un billet sur Alger. C'est ça que ça veut dire. Ça veut dire que finalement, on a toujours l'impression qu'Alger est une ville, la ville number one en termes de coûts. Mais ça, c'est parce que c'est juillet et août sur l'année. Bah, finalement, Casa est plus cher qu'Alger. Après, on vous a demandé de classer les villes en fonction donc de là, en termes de popularité. Quelles sont les villes qui sont les plus recherchées sur un moteur de recherche tel que Kayak? Et là, on a effectivement une surprise puisque la ville qui est le plus recherchée sur Kayak, c'est Tunis, donc c'est la ville qui a été en 2018 la ville la plus recherchée sur un moteur de recherche.
Voilà. Et donc, malgré les recommandations du ministère des Affaires étrangères qui dit n'y allez pas, c'est dangereux, alors que bon, franchement, on voit que les voyageurs eux sont pas trop d'accord avec ça. Donc effectivement, les voyageurs font beaucoup de recherches pour la destination Tunis. Hein. Tunis qui a toujours été très bien placé puisque même si on se rapproche des dates des attentats, malheureusement, on regarde, en 2016, Tunis était troisième, en 2017, second, et puis là, premier. Ça veut dire que c'est quand même une ville où les gens veulent partir. Bon, alors après, c'est vrai que dans la liste des villes, après, on voit quand même moins de villes tunisiennes, donc il y a peut-être une raison aussi familiale, on va voir sa famille, etc. C'est peut-être moins touristique, mais il y a quand même un engouement pour la Tunisie, là.
Alors, Alger, qui était toujours première en les années précédentes, donc a cédé la première place en termes de recherche, hein, de billets, et donc maintenant est deuxième, et Casa est troisième. La suite du classement, Manu?
Alors, ensuite, on a Fès, hein, donc ville qu'on retrouvait aussi en bonne position dans les prix moyens, hein, puisque c'était le prix moyen de billets le plus bas. On a ensuite Agadir. Donc là, on reste sur le Maroc, et puis après on repart en Algérie avec Oran, donc dont on vous a parlé dans Décalage Immédiat déjà, une ville magnifique qu'on vous invite à visiter.
Rabat, Marrakech, Tanger, Oujda, Monastir, Béjaïa est 12e en termes de recherche de billets, 12e.
Oui, alors petite destination pourtant, hein, on en parlait hier, Béjaïa.
Mais très recherchée. Tlemcen est 13e, là aussi beaucoup d'engouement. Pour
un vol qui est actuellement très cher, ou en tout cas la plupart de l'année, la plupart du temps, est très très cher, puisque si je me suis amusé à faire des simulations, si je pars demain pour aller à Tlemcen, j'en ai pour 527 euros aller-retour pour une semaine.
Ce qui veut dire que les gens recherchent beaucoup la destination de Tlemcen. Ça veut pas dire qu'ils y vont beaucoup, mais en tout cas c'est une recherche on parlera de simulation tout à l'heure.
Pas de souci.
Et pour terminer donc le classement, on a Constantine, effectivement, alors là aussi qui n'apparaît pas en liste de prix, ouais, qui est très recherché en 14e position. et Essaouira en 15e position.
Oui, alors donc on voit dans ce classement, c'est vrai que vos données nous ont beaucoup intéressés parce que en fait ça démystifie certaines choses parce que on parle vraiment de destinations touristiques, mais on voit qu'il n'y a pas que les destinations touristiques qui intéressent les voyageurs. Et puis on voit aussi des villes qui sont peut-être recherchées pour le business, pour des raisons familiales. Je vais voir ma famille ou je me déplace de façon professionnelle, et c'est pour ça aussi que je pense les capitales tiennent le dessus du classement, hein, Tunis, Alger, Casablanca. Et si on regarde effectivement les années précédentes, il y avait les trois mêmes villes, mais avec un ordre différent. Donc les capitales sont en tête de ces recherches, Philippe.
Voilà, vous êtes en train de nous écouter. Je sais que vous êtes nombreux à être sur les sites, les comparateurs de vol. John Nicez est notre invité ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kayak Europe. Et on parlera tout à l'heure des destinations qui montent et de celles qui descendent.
Décalage immédiat sur Beurre FM. Beurre FM, 10h-11h.
Tout l'été, nous allons explorer la destination Maghreb tous les matins entre 10h et 11h avec Manuel Mariani, avec Eddy Nedjari. Notre invité ce matin, c'est John Nicez. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kayak Europe. Et nous avons avec nous aujourd'hui au téléphone Saïd Boukhelifa. Bonjour, monsieur Boukhelifa.
Bonjour.
Vous m'entendez? Vous êtes expert international en tourisme international et nous profiterons de votre expertise sur la destination Algérie tout à l'heure. Alors, monsieur Cies, quelles sont les dernières tendances donc sur le début de l'année 2018, sur les recherches sur les trois pays du Maghreb que sont la Tunisie, le Maroc et l'Algérie?
Ben en fait, finalement, les trends sur ces trois pays-là sont un petit peu les trends que l'on voit sur
les tendances.
Excusez-moi.
Philippe, enfin, vous parlez.
C'est du franglais, j'en suis désolé. En fait, donc, les tendances suivent un petit peu les chiffres officiels, c'est-à-dire que le Maroc, on voit qu'il y a une augmentation très nette des recherches pour le Maroc et pour la Tunisie. Et puis, comme on l'avait indiqué auparavant sur l'Algérie, qui a investi très modestement finalement dans le tourisme, les recherches sont plutôt stables, voire négatives.
Alger va réagir encore dans 5 minutes pour dire non, nous avons un grand plan de modernisation du tourisme.
On en parlera
tout à l'heure avec notre invité. Alors j'ai demandé à Eddy, qui est le geek de cette émission, de faire des simulations d'aller sur un moteur de recherche bien connu qui s'appelle Kayak. Quand on va sur Kayak, qu'est-ce qu'on fait pour se connecter, monsieur Cies?
On tape kayak.fr quand on est en France.
Voilà, et pas .com comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien sûr.
Et puis ensuite, on met sa destination, si on parle du produit vol. Et puis nous allons chercher, en fait, on va agréger toute l'information qu'on peut trouver sur Internet en fonction de votre destination que vous avez pré-remplie, excusez-moi. Et puis en quelques secondes, on va vous donner, sous une forme simplifiée, toutes les offres qui sont possibles.
Sur votre volume de recherche globale, qu'est-ce que les gens recherchent le plus? Plutôt les vols ou plutôt les hôtels?
Ça serait plutôt les vols.
Plutôt les vols, oui, d'accord. Exactement. C'est ce que je me disais, mais bon, comme je ne suis pas forcément tout le temps normal, je préférais avoir...
Ça, je comprends. Et ce qui est bien, cette auto-analyse, Manu, c'est bien. Donc vous vous en rendez
compte. On essaye, je progresse avec mon psy. Hein.
Ce sont les vols et les hôtels qui sont le plus recherchés sur Kayak.
Bon, Eddy, on va où? On s'entend réel, hein.
Ouais, exactement. Il y a quelques secondes, parce que le site s'actualise automatiquement quand je fais une recherche. Il me dit que les résultats sont expirés, donc j'actualise la page directement. Et je regarde actuellement pour un voyage à partir de demain, pendant une semaine, du 20 au 27 justement, pour partir soit... Bon, on a fait des comparaisons dans...
Vous êtes dur avec nous, hein. Aller chercher un prix d'un billet pour demain.
Pour le lendemain, oui.
C'est pas évident.
Alors, je sais pas. Alors, pourquoi vous dites que vous êtes dur, qu'on est dur? Parce que finalement, les tendances nous montrent qu'aujourd'hui, les gens attendent de plus en plus la dernière minute. Et là, on l'a vu avec l'effet Coupe du Monde. Les gens ont attendu, par exemple, que la Coupe du Monde termine pour se dire, ça y est, maintenant, je peux commencer à partir en vacances. Donc, les gens, ils cherchent pour la dernière minute.
Alors là, c'est plus que de la dernière minute. Je sais pas, les gens qui sont flexibles à ce niveau-là. Il faut quand même pouvoir poser des vacances. Il faut s'organiser avec les enfants. Mais on s'aperçoit dans toutes les études qu'on a sorties cette année que en règle générale pour des voyages qui sont
je vous parlais
à Philippe Robichon qui prépare ses voyages un an et demi à l'avance à peu près.
D'accord. Pour trouver les meilleurs tarifs, c'est peut-être pas si mal que ça.
Moi, je suis le rat, regardez-moi bien. Je suis le à l'international, je suis le plus gros rat. Je vais en Australie pour 400 balles. Alors, je veux dire, là, j'ai pas besoin de moteur de recherche. Mais là, justement, pour aller en Algérie, j'arrive pas à faire moins cher. Il y a rien. J'ai beau contourner sur l'Algérie, il n'y a pas de filon, j'ai presque envie de vous dire.
Il me semble que sur les dernières études qu'on a sorties, un vol pour l'Algérie, pour optimiser le prix de son billet, il faut s'y prendre 3 à 4 mois en avance.
Ouais, d'accord. Donc, oui, parce que c'est effectivement une destination qui est moins touristique, l'Algérie, parce que justement, on le disait, il n'y a pas une volonté de l'Algérie de développer le tourisme. Enfin, si ça commence, on le voit justement à travers nos émissions. Alors, c'est plus local, c'est pas forcément national, mais le fait qu'effectivement la destination soit pas la plus touristique, ça se ressent effectivement dans le prix des billets, quoi. C'est plus des billets. Je veux voir ma famille ou je me déplace pour le business, et donc effectivement là les billets sont plus chers.
Alors Eddy, on y va.
J'ai d'abord pris la destination d'Alger. On se retrouve avec un billet à 374 €, ce qui est dans la moyenne.
Donc, pour faire un Paris-Alger demain.
Paris-Alger demain exact.
C'est pas très cher. Non. Alors, j'ai presque envie de vous dire que c'est pas cher pour la saison. 374 €. Avec quelle compagnie?
Air France, pardon.
En plus, sur Air France.
Avec les bagages compris?
Je sais pas.
Ah non, attendez, il faut voir, parce que si j'ai mes 35 kilos de bagages, mais 374 € pour partir demain, ça me paraît pas un prix.
Mais c'est direct ou il y a un changement de Jakarta là sur votre vol?
Non, c'est direct. C'est direct. Bon. Et si on veut partir à Tlemcen, les prix changent, on est à 527 €.
Donc pareil, on part demain.
Et on revient la semaine prochaine. Et on revient la semaine prochaine.
Combien?
527 €, pardon.
Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On va changer de pays, on va partir en Tunisie avec Djerba, on a 387 €.
Et le direct?
Direct aussi.
Ah, vol direct, d'accord.
J'ai pris que des vols directs avec des compagnies low cost pour le coup, avec Transavia. Et le moins cher, ça sera pour partir à Agadir demain, puisqu'on aura un billet avec TUI Fly Belgium, 242 €.
Attends, avec TUI Fly Belgium. Yes. Mais alors, Belgium, c'est Belgium. Ils partent d'où?
Paris.
Ils partent de Paris. Il n'y a pas un stop en Belgium?
Non.
D'accord, c'est moins cher. Maintenant, je vais aller passer l'Aïd en Algérie. Comment je fais?
Parce que là,
les gens sont en train de se poser la question, parce que l'Aïd, on sait que c'est le 22 août, il y a beaucoup qui vont vouloir passer leur l'Aïd
en famille,
que ce soit en Algérie, au Maroc, en Tunisie, ça donne quoi à peu près aujourd'hui?
Le problème c'est que l'aller va être pas très très cher, mais le retour, comme c'est la rentrée scolaire en Europe, en France plus particulièrement, on aura des billets autour de 600 € quand même, c'est excessif, mais...
Il y a beaucoup d'excédents de bagages au retour depuis l'Algérie, on sait.
Là, en gros, sur un pari,
on ramène toujours quelque chose.
Tlemcen, on est à 662 €.
D'accord, avec un départ le
19.
Le 19 août, parfait, pour y être le 22, c'est bien, ouais.
Et un retour le 31 août.
Ah ouais. 600, et sinon, sur Alger, vous l'avez où?
31 août, avec une rentrée des classes le 3 septembre, c'est peut-être un peu ambitieux, là, non?
Non, c'est bien.
C'est pas mal.
Bon. Ouais. Et sur Alger?
J'ai pas l'information tout de suite.
Bon. Donc, en gros, quelles sont les bonnes stratégies pour les gens qui voyagent pour acheter un billet d'avion le moins cher possible?
Alors la première et la plus évidente, c'est
d'aller sur kayak.fr
ou un comparateur de voyage. La deuxième, c'est effectivement de rester flexible sur les jours de ces vacances. En général, rentrer un samedi ou partir un mercredi favorisera les prix les moins chers.
Oui, ça peut faire gagner beaucoup d'être flexible au niveau de ces dates.
Absolument. Il faudrait vérifier sur quelle destination on parle, mais
oui,
plusieurs dizaines d'euros, effectivement. Il faut peut-être regarder les aéroports de proximité. De temps en temps, par exemple,
partir de Beauvais, par exemple.
Je suis originaire de Lyon, partir de temps en temps de Genève, ça peut être plus attractif.
Très intéressant, oui.
J'ai envie de vous dire partir, oui, c'est pour revenir, c'est un peu plus embêtant. Il y a des rumeurs, par exemple, qui circulent. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé, vous êtes rentré dans un site de recherche, vous commencez à faire une recherche d'un pays, vous avez un prix, vous revenez 10 minutes après, ça a pris 30 balles.
C'est complètement normal.
Donc, c'est vrai?
Absolument. En fait, si vous voulez, les prix des billets, c'est un petit peu comme la bourse. Donc, en fait, les compagnies aériennes ou les agences de voyage.
Comme vous êtes en temps réel, en fait.
On est en temps réel, mais c'est surtout que les compagnies aériennes appellent ça le yield management. Donc, c'est de l'optimisation, finalement, tarifaire et du taux de remplissage des avions. Donc, en fait, en fonction de l'offre et la demande, les prix varient presque toutes les secondes.
D'accord. Mais on le voit sur certains sites, d'ailleurs, quand on est sur un billet précis, le site parfois dit il y a 12 personnes, 15 personnes, 18 personnes, 20 personnes qui regardent ce billet en ce moment. Donc, si effectivement sur ces 20, il y en a une, deux, trois qui commandent le billet, il y a moins de billets. Et comme vous dites, c'est comme à la bourse. Moins il y en a, plus c'est cher, quoi.
Exactement.
Est-ce que ça veut dire qu'on est traqué?
Non, enfin, alors vous êtes traqué, oui et non. Vous êtes, on implante des cookies en général. Et il y a différentes raisons pour lesquelles on implante des cookies sur des IP adresses. La plupart du temps, les cookies qui sont implémentés, c'est pour améliorer la qualité finalement du site.
L'expérience utilisateur, comme on dit en marketing.
L'expérience utilisateur. Exactement. Et puis, c'est aussi afin de pouvoir distribuer des publicités qui sont ultra ciblées, au lieu de vous envoyer des publicités qui ne sont pas du tout...
Oui, on ne va pas nous envoyer... Si on fait des recherches sur l'Algérie, on va nous envoyer une pub sur un hôtel algérien et non pas sur une société de location de vélo à Helsinki, quoi, par exemple.
Hein, exactement. Et puis, il y a les cookies, tout simplement, pour le bon fonctionnement du site, elles sont absolument indispensables, notamment pour vous loguer sur votre compte ou pour avoir vos préférences qui sont déjà stockées.
C'est vrai que moi je suis assez libertaire en termes d'informatique, mais c'est vrai que souvent les gens, pour eux, les cookies, c'est quelque chose d'inquisiteur, néfaste, etc. Alors que souvent, au contraire, ça permet de, enfin, pour les gens qui les utilisent, pour les sites qui les utilisent de façon sérieuse et intelligente, ça permet effectivement de faciliter les recherches et d'améliorer le trafic, quoi. Enfin,
Et pour rappel, sur les cookies, Kayak n'est pas un site marchand, donc on n'a aucun intérêt.
Oui, vous n'avez rien à vendre.
On n'a rien à vendre, donc on n'a aucun intérêt à essayer de vous vendre des billets plus chers. On n'a pas d'intéressement sur.
Alors, sur Kayak.fr, vous ne vendez rien, mais si je fais une recherche, le prix me convient, est-ce que je peux cliquer dessus et vous renvoyer vers le site qui, lui, vend le billet?
Exactement, c'est comme ça que ça fonctionne.
D'accord. Donc, c'est là votre business model, c'est là que vous gagnez de l'argent, c'est que vous touchez une commission.
C'est un modèle au clic, exactement.
C'est ça, oui.
À chaque fois qu'un client sera retransféré ou basculé sur un site partenaire, à ce moment-là...
C'est ce qu'on appelait dans des années antérieures, le modèle quel coup, c'est j'ai le comparateur, je clique et je suis payé au clic. Donc.
Exactement.
Deuxième rumeur qui circule, c'est que si on se connecte sur un site d'un pays étranger, on peut payer moins cher. Par exemple, si je me connecte sur Kayak Allemagne, je paierai mon billet Paris-Alger moins cher. Vrai ou pas vrai?
C'est vrai. C'est vrai.
Bon, d'accord. Voilà. Qu'est-ce qui explique ça? C'est les taux de change? Ça vient de quoi?
Non, c'est... Difficile à l'expliquer, mais en fait, chaque pays a ses allotements, grosso modo, et donc, effectivement...
Alors, un allotement, c'est
assez billets d'avion.
Oui, c'est un allotement, c'est une attribution d'un nombre de billets d'avion.
Exactement.
Donc, sur un avion, il y en a tant pour tel pays.
Exactement.
Et donc, un pays qui les aurait pas bien vendus serait tenté de les vendre moins cher, donc.
Absolument.
Donc, ça, c'est vrai. Comment est-ce qu'on connaît un bon prix, finalement, le juste prix d'un billet?
Alors, ce que je voulais vous dire, justement, par rapport à Kayak, c'est qu'on est une entreprise technologique avant tout. Et donc, on développe, finalement, des outils pour faciliter la vie des voyageurs. Et donc, on a un outil qui se retrouve en haut de la page, en haut à gauche de la page de recherche, qui est l'outil de prédiction des prix. Donc, en fait, qui vous indique si les prix du billet d'avion va augmenter ou va descendre sur les 7 prochains jours.
Du data mining.
Exactement, de la big data.
Et ça, c'est fiable.
Ça, c'est fiable. Notre outil est fiable à plus de 95% du temps.
Parce que tu sais que la plupart des gens, ils se disent toujours, bon, je vais réfléchir, je vais regarder sur un autre site. Voilà. Et donc, ils hésitent. Il y a toujours...
Vous n'avez plus besoin de le faire. On a créé l'outil justement pour ça, pour que vous soyez rassuré et que vous soyez confiant sur vos prochaines...
Est-ce qu'il faut que j'achète tout de suite? Est-ce qu'il faut que j'attende un petit peu?
Exactement.
Il y a aussi une rumeur par rapport aux heures de réservation. Il y a des rumeurs comme quoi on dit que si on réserve tard dans la nuit, on aura forcément un billet beaucoup moins cher, que si je commande à 4h de l'après-midi.
Il y a beaucoup de rumeurs, mais effectivement, il y a certaines agences de voyage en ligne qui, en fait, annulent complètement leurs frais pendant la nuit. Et donc, effectivement, dans certaines plages horaires, en tout cas, c'est le cas il y a quelques années, je suis plus sûr que ça existe encore.
D'accord.
Mais c'est vrai qu'il y a quelques années en arrière, aller booker un billet à 4h du matin, ça pouvait être moins cher, parce que les agences de voyage ne mettaient pas de frais sur les prix des billets.
Alors, au niveau du marché des billets d'avion et des hôtels, il y a des bases communes. Alors bon, en enquêtant un petit peu, j'ai trouvé des bases qui s'appellent SAB ou des choses comme ça, qui sont des bases, je crois, qui sont utilisées par l'ensemble des agences, des acteurs du tourisme. Donc peut-être vous aussi d'ailleurs, mais les agences de voyage principalement, etc.
C'est d'ailleurs la... Pardon, excusez-moi.
Oui, non, mais je vous en prie. C'est le noyau dur où il y a toute l'information qui se partage après selon les acteurs, c'est ça?
Exactement. Dans notre jargon, on appelle ça un GDS, Global Distribution System. Et le plus gros en Europe, c'est Amadeus. Et c'est la particularité de Kayak, c'est-à-dire que non seulement on est connecté avec les agences de voyage en ligne, mais on est aussi connecté directement au GDS, donc à Amadeus, ce qui nous permet d'avoir vraiment l'ensemble du marché.
Donc vous récupérez l'information d'un côté, vous la traitez, vous la donnez aux utilisateurs et vous renvoyez après vers les agences de voyage qui proposent ces vols.
Exactement, mais on va la chercher à la base sur les agences de voyage en ligne et dans la base de données,
dans la base de données,
pour avoir en fait accès aux compagnies aériennes en direct.
Quand on trouve un même billet d'avion avec des prix différents, c'est juste que tous les acteurs, enfin les agences de voyage, ils l'achètent tous au même endroit, c'est-à-dire via une base type Sabre ou Amadeus, mais ils la revendent avec une marge différente, tout simplement.
Exactement, ou des frais de carte de crédit, etc.
Oui, ça veut dire qu'il y a peut-être toujours moyen de négocier un peu avec son agent de voyage, si on va dans une agence de voyage physique, là, je parle par contre, hein, là, on ne parle plus du online. Hein.
Ça existe encore ?
J'en ai vu quelques-unes. C'est vrai que ça correspond pas trop à votre business model, ça.
Alors, John Nicès, vous êtes directeur général de Kayak Europe. Vous êtes le leader mondial des recherches en ligne et de la réservation du voyage. Je voudrais savoir comment je fais pour trouver mon billet pour aller en Algérie, au Maroc ou en Tunisie cet été le moins cher du monde. C'est quoi la stratégie ?
Kayak.
Et je veux y aller l'été.
La réponse est...
Comment je fais ? À quelle heure je recherche et comment je fais ? Est-ce que j'y vais toutes les minutes ? Est-ce que...
Vous pouvez certainement mettre
une alerte.
Hein. Une alerte, exactement. Merci. Ouais. Merci, les mots ne me venaient pas. Une alerte et on peut vous solliciter en fait tous les jours, toutes les semaines, tous les mois en fonction de votre appétit sur la destination. Donc ça, c'est une des premières possibilités. Effectivement d'aller sur kayak.fr, aller voir les dates flexibles.
Le principe de l'alerte, pour que les auditeurs comprennent bien, en fait, c'est je fais une recherche sur le site kayak.fr, je demande à être alerté, c'est-à-dire que vous allez continuer, sans que je me connecte, vous allez continuer à faire la recherche régulièrement et je vais recevoir comment ? Un mail, un SMS ?
Un mail. En fait, il y a des robots qui vont automatiquement aller chercher...
Qui vont faire
la recherche pour vous. Donc, vous pouvez rester tranquillement sur votre canapé ou derrière votre ordinateur au bureau. Et on vous prévient quand les prix chutent. Donc ça, c'est une façon...
Ça, c'est intéressant, oui.
Est-ce que un site de recherche comme le vôtre, kayak.fr, ça met en avant des compagnies amies, par exemple ?
Oui,
c'est parce que c'est en
concentre. Est-ce que vous allez faire passer
des compagnies avant d'autres ?
Est-ce que vous allez afficher en premier un opérateur parce que c'est votre partenaire, même s'il n'a pas le prix le moins cher, c'est ça ? Enfin, voilà.
Non, absolument pas. Ça serait aller à l'inverse du concept.
Ah, mais il y a des sites qui le font, c'est-à-dire qui mettent en premier des prix qui sont pas forcément les moins chers, mais qui affichent résultats sponsorisés.
Là, vous parlez peut-être de sites marchands qui ont peut-être des rémunérations plus importantes avec certaines compagnies, mais donc, encore une fois, nous.
Oui, vous, c'est sur le volume que vous faites votre.
C'est sur le volume, effectivement, c'est sur le nombre de clics.
Oui.
Mais les gens viennent ici pour aller trouver le prix du billet le moins cher.
Et donc, vous n'avez aucune raison de mettre en avant un marchand plutôt qu'un autre, quoi.
Absolument pas.
On paye comment aujourd'hui ? Est-ce qu'il y a, par exemple, sur Kayak, alors vous êtes dirigé sur des sites marchands, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens pour des gens qui n'ont pas de carte bancaire ? Parce qu'il y a encore beaucoup de gens qui refusent de payer sur...
Les agences de voyage, hein, c'est tout ce qui va rester, je pense.
Ouais. C'est très compliqué, effectivement, si vous n'avez pas de carte.
Oui, à quand un avaleur de billets sur l'ordinateur pour payer son, pour payer son voyage en espèces ? Non, mais voilà.
Apple, si vous
voulez. Un gros disque dur.
Moi, je connais de plus en plus de gens qui sont très réticents à laisser leurs coordonnées bancaires sur les sites, hein, aujourd'hui.
La tendance, quand même, c'est qu'il y a.
Mais ce sont des gens de votre génération, Philippe. Hein.
Non, alors justement, c'est pas des. Non, alors non, 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 mais vous pouvez dire. Non, mais alors, le plus surprenant, c'est que c'est pas des gens de ma génération. Ce sont des gens souvent pour des raisons idéologiques, politiques, tout ça, qui ne veulent pas laisser leurs coordonnées bancaires sur des sites.
Non, mais vous avez raison, hein. Il y a des gens qui sont réticents à faire leurs achats sur Internet. Il faut trouver des solutions. Mais c'est vrai qu'en tout cas aujourd'hui,
c'est peut-être le moment de rappeler qu'il y a des lois en France et que si vous avez des achats qui sont faits avec votre carte bancaire sur Internet et que vous n'êtes pas à l'origine de ces achats, la banque est obligée de vous rembourser dans des délais très courts. Et c'est après entre la banque et le marchand que la résolution va se faire. Mais vous, quoi qu'il arrive, vous êtes protégé, vous êtes remboursé. Donc ça, je dis ça pour les auditeurs qui seront encore réticents avec l'utilisation de leur carte bancaire en ligne. C'est quand même une des choses qui soit les plus sûres en France. Hein, donc,
Dans un instant, nous serons avec Saïd Boukhalifa, qui est expert international en tourisme. Et nous parlerons justement de la destination de tourisme Algérie. On disait 1,4 du PIB l'année dernière. Que va faire l'Algérie pour développer son tourisme ? On en parle dans un instant.
décalage immédiat sur Beurre FM. Beurre FM, 10h-11h, décalage immédiat.
Et tous les jours, vous repartez avec votre guide du petit futé. Manu, aujourd'hui, on gagne quoi?
Alors aujourd'hui, on va gagner un guide. Soit de la ville, soit de la ville qui vous convient, s'il existe dans la ville en question, soit le pays, hein, puisque aujourd'hui, on n'a pas une destination particulière. Donc, on va vous poser une question par rapport à toutes les informations que vous avez tout à l'heure. Alors, Eddy, quelle est la question du jour?
Alors, pour gagner le guide, il faudra répondre à la question suivante: quelle est la destination la plus recherchée en 2018 sur kayak.fr?
Bien, vous avez la réponse.
Alors, le numéro de téléphone, Eddy?
Au 01 53 48 3000.
C'était un test parce que des fois, il l'oublie, Eddy, le numéro de téléphone. 01 53 48 3000, vous nous appelez et on vous fait gagner un guide petit futé.
Saïd Boukhalifa, vous êtes avec nous, rebonjour.
Rebonjour.
Je rappelle que vous êtes expert international en tourisme et on disait tout à l'heure, on communiquait les chiffres, hein, l'Algérie avance un peu plus de 2 millions de touristes sur l'année dernière. L'Algérie semble vouloir afficher de nouvelles ambitions pour le tourisme. C'est quoi la réalité aujourd'hui des touristes en Algérie?
Oui, tout à fait. Après une longue hibernation, plus de 20 années que l'Algérie ne considérait pas le secteur touristique comme une priorité depuis la chute brutale des prix des revenus des hydrocarbures, comme vous le savez, depuis 2014. Il y a une tentative de reprise pour une mise en tourisme de l'Algérie touristique qui a demeuré longtemps, comme on dit, négligée par les pouvoirs publics. Aujourd'hui, il y a un plan de relance, mais l'Algérie manque de savoir-faire, d'ingénierie touristique, parce qu'elle ne s'était pas préparée. Une destination se construit ou se reconstruit dans une durée de 20 ans, le temps d'une génération.
Ouais.
C'est ça le problème de l'Algérie, elle va se reconstruire crescendo. Nous avons un schéma directeur d'aménagement touristique qui va de 2008 à 2030.
Alors aujourd'hui, concrètement, les gens qui vont en Algérie vont où d'abord, en première intention?
Non, sur les 2004, il faut préciser que plus de 70% sont des ressortissants algériens résidant à l'étranger. Ce sont des visites strictement familiales. Ils ne viennent pas pour le tourisme ou pour les hôtels.
Oui, c'est une destination qui est plus familiale ou professionnelle que touristique, du coup.
Oui, dans les 30%, nous avons plus de 25%, c'est le tourisme d'affaires. Mmh. Et ce tourisme d'affaires ne ramène pas grand-chose à l'Algérie parce que dans le cadre de ce qu'on appelle les comptes extérieurs du tourisme international, les pays importateurs comme l'Algérie, elles importent presque tout.
Mais ça fait des nuitées d'hôtel.
Oui, ça fait des nuitées d'hôtel, mais en fait, ces recettes en devises qui entrent dans le cadre du tourisme d'affaires,
ouais,
elles ressortent après dans le cadre des paiements, des achats, des contrats, etc. C'est ce qu'on appelle
les comptes extérieurs du tourisme. C'est le principe des vases communicants un peu, quoi.
C'est ça. Parce qu'il faut savoir que depuis déjà 30 ans, aucun touriste n'est venu en Algérie dans le cadre du tourisme balnéaire, dans le cadre du tour operating, c'est-à-dire les voyages organisés.
Mais alors, à votre avis, d'où vient ce retard de l'Algérie au niveau de la volonté de développer vraiment le tourisme? Parce qu'il y a quand même plein de choses
à
voir.
Oui. C'est l'absence de volonté politique. Quand il y a absence de volonté politique, c'est clair. La culture touristique ne s'installe pas et le savoir-faire également. Vous savez, dans les années 70, l'Algérie avait brillé sur le plan international du tourisme parce qu'il y avait une volonté politique de développer. On a construit des complexes touristiques, on a ouvert des instituts de formation. Et quand on a terminé ces deux aspects, on a ouvert 5 représentations de promotion à l'étranger, dont Paris, Place de l'Opéra, Londres, Francfort, premier marché émetteur de touristes, Bruxelles et Stockholm, qui nous a valu des charters de Scandinavie, etc. Malheureusement, ça a duré 10 ans.
Ouais, 70-80 et après ça s'arrête.
Ça s'arrête en 75. Moi qui travaillais déjà en 75, l'Algérie c'était la destination la plus prisée au niveau de la France.
Ah oui.
Au même titre que la Thaïlande qui s'ouvrait au tourisme en 75. Hein. Nous étions pratiquement 80% de notre marché international réceptif. C'était la France qui représentait ces 80%, Et nous avons, on a eu quand même les voyages Fram, certains grands tour opérateurs et moyens tour opérateurs.
Monsieur Bourrelifa, avant de parler du futur, aujourd'hui, quelqu'un qui veut aller en Algérie, qui veut faire du tourisme en Algérie, il va où?
Il passe par une agence de voyage, mais vous avez évoqué les restrictions et les conseils du ministère des Affaires étrangères. Concernant l'Algérie, le ministère des Affaires étrangères français dresse beaucoup d'obstacles, beaucoup de barrages. Faites attention, n'allez pas ici. Il ne reste plus aucun coin pratiquement à part Alger sur leur site. Donc ça dissuade. Également, il faut le reconnaître, au niveau de consulat, il n'y a pas cette dynamique, cette rapidité dans les réponses de demandes des visas. Mais du fait de l'absence, du manque de lisibilité et de visibilité à l'extérieur de la destination Algérie, il n'y a pas cet engouement des touristes étrangers vers notre pays.
D'accord. Donc aujourd'hui, quelles sont les destinations qui fonctionnent d'un point de vue touristique en Algérie?
C'est l'extrême sud, ce qu'on appelle le Hoggar et le Tassili, en plus Gardaïa, Timimoun, c'est surtout le sud. Ceux qui viennent actuellement, c'est quelques groupes pour l'extrême sud et quelques groupes des anciens d'Algérie. C'est le tourisme de pèlerinage.
D'accord. Comment on explique ce dynamisme du sud et le fait que finalement, il y a quand même des raids qui s'organisent, des visites guidées qui s'organisent dans le sud algérien?
Non, cette dynamique, parce que vous savez, dans l'extrême sud, on n'a pas besoin d'infrastructures hôtelières. C'est le campement et bivouac, hein, c'est le trekking.
Ça, c'est de l'écotourisme, du trekking, etc., qui est très en vogue en plus. Donc,
Très en vogue, le tourisme durable, le tourisme solidaire, etc. Et dans l'extrême sud, cette culture touristique existe toujours, elle n'a jamais disparu. Elle a disparu au nord, au cours des 30 dernières années. Mais dans l'extrême sud, les gens naissent avec le tourisme, grandissent avec le tourisme, aiment le tourisme et essayent de le commercialiser parce qu'ils ont des régions fantastiques.
Alors on parle d'un plan à l'horizon donc 2030. Qu'est-ce qui va être fait? Qu'est-ce qui va être développé pour attirer de nouveau les touristes? Est-ce que, parce qu'on parlait de tour opérateurs, aujourd'hui ce que les touristes aiment bien c'est les packages, tout compris l'avion, l'hôtel, les visites.
Oui.
Est-ce que ce sont des produits sur lesquels aujourd'hui le ministère du tourisme algérien est en train de réfléchir?
Oui, tout à fait. Actuellement, il est en train de moderniser à peu près 70 grands ensembles touristiques, notamment les gros complexes balnéaires qui avaient servi à sa notoriété dans les années 70. Ils seront prêts dès 2019, 2020. Dans le sud également, la majorité des hôtels ont été modernisés d'ici 2019-2020. Nous allons reprendre notre tourisme itinérant, des circuits touristiques en autocar qui étaient très prisés dans les années 70-80.
D'accord. Ça sera commercialisé sous quelle forme, Monsieur Bourrelifa?
Package, c'est des circuits de 8 jours, c'est-à-dire ça sera dans le cadre du tour operating. Actuellement, sur les 2 400 000 touristes qui ont été évoqués pour 2017, on reçoit moins de 5000 touristes dans le cadre du tour operating, c'est-à-dire le packaging, les packages que vous avez évoqués.
Ah, c'est très peu, quoi. C'est un chiffre super faible. Oui.
Non, c'est insignifiant. Il est très rare de voir un autocar bondé de touristes circulant à travers les Ardennes d'Alger.
Alger revendique, alors vous allez voir le chiffre, 22 000 touristes sur les 6 premiers mois de l'année. C'est très très faible hein, pour une capitale, 22 000 touristes.
Oui, tout à fait. Bien sûr, c'est très faible, c'est surtout pour une aussi belle, une aussi grande capitale qu'Alger, qui, s'il y a 20 ans, il y avait un problème de se loger à Alger, avec 3 hôtels valables, c'est-à-dire aux normes internationales, aujourd'hui, elle a une centaine d'hôtels de qualité, tous modernes, de construction récente. Au cours des 5 dernières années, il y a eu 5 nouveaux hôtels de 3 à 5 étoiles qui ont été construits à Alger.
Allez-y.
Alger ne se pose pas et ne se pose plus.
Vous évoquiez tout à l'heure la part du tourisme qui revenait là un petit peu, qui était les anciens pieds noirs qui revenaient en Algérie,
oui.
Ce qu'on appelle les nostalgériens d'avant 62. Est-ce qu'on arrive à identifier le pourcentage que ça que pèse cette part touristique.
Pour pourcentage sur les 2 400 000, c'est insignifiant. Hein, c'est à peu
d'accord,
près,
oui, ça reste plus, très marginal.
Très marginal, mais parce qu'il y a beaucoup qui restent encore hésitants. Hein,
oui, et puis des nostalgiques d'avant 62, il y a aussi le problème de l'âge, ils ne sont plus tous vivants maintenant, c'est surtout ça. Oui.
Tout à fait, c'est leurs enfants qui viennent. Hein, ils sont septuagénaires et octogénaires maintenant, les anciens d'Algérie. Ceux qui sont partis à l'âge de 10 ans ou bien à l'âge de 15 ans ou 5 ans. Mais les grands-parents, bien sûr, ne reviennent plus, les parents. Et ceux-là ne se considèrent pas touristes. Hein. Ils nous le disent. Nous, on vient en pèlerinage. Donc, nous venons vers notre terre natale. Alors, on n'est pas des touristes.
Monsieur Bourreïfa, vous avez parlé donc d'un plan quand même très ambitieux sur une dizaine d'années, 2030. Vous dites que déjà une grande partie des hôtels et des complexes touristiques sont en voie de rénovation ou ont été rénovés. Donc que ça devrait être fini vers 2019-2020. Ça, c'est à partir de l'année prochaine.
Oui.
Est-ce qu'il y a des nouvelles destinations touristiques que l'Algérie ouvre?
Non, elle va reprendre les anciennes parce que il y a une soixantaine de packages qui sont prêts.
Ah, qui sont déjà prêts à être commercialisés?
Oui, tout à fait. Seulement, maintenant, nous attendons cette modernisation des hôtels et en parallèle, la formation et le perfectionnement du personnel.
Oui, c'est le problème parce que nous, hier, par exemple, on faisait une émission sur Béjaïa. Moi, je travaille principalement sur la partie hébergement et restaurant. L'hébergement à Béjaïa, qui est quand même une ville magnifique, il n'y a pratiquement rien, quoi. C'est-à-dire que, à moins d'aller dans une auberge de jeunesse et d'aller dans un dortoir, il n'y a pas énormément d'hôtels, il n'y a pas une offre d'hôtels vraiment très, très variée, quoi.
Absolument. Béjaïa, qui aurait mérité, par exemple, au moins 50 000 lits, elle ne dépasse pas les 5 000 lits, et la plupart ne sont pas aux normes internationales. Ils ne sont pas aux normes internationales. Une aussi belle ville comme Béjaïa, comme vous dites, ça reflète un petit peu l'absence de volonté politique qui a perduré pendant plus de décennies.
Malgré tout, j'ai cité un hôtel qui a été ouvert en 2015. Là, le ministre du Tourisme, il s'est déplacé pour l'ouverture d'un hôtel. En France ou dans beaucoup d'autres pays, le ministre du Tourisme ne se déplace pas à chaque fois qu'un hôtel ouvre. En Algérie, un hôtel qui ouvre, le ministre du Tourisme se déplace. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la volonté politique, mais quand des privés le font, on apprécie quand même, apparemment.
Alors, oui, tout à fait, malheureusement, s'il y avait cette volonté politique, cette culture politique et l'absence d'une ingénierie touristique. L'Algérie manque de compétences et de savoir-faire. Parce que s'il y avait tout ça, le ministre du Tourisme ne se déplace pas. C'est le maire local ou bien le préfet local, bien qu'on appelle le Wally chez nous. Le préfet qui inaugure un petit hôtel privé. Chez nous, le ministre déplace pour un hôtel de 100 lits, 50 chambres.
Alors, Saïd Bourreïfa, reste en ligne. On fait gagner des guides tout l'été, des guides Le Petit Futé. Ahmed est avec nous. Bonjour, bienvenue Ahmed.
Oui, bonjour, vous allez bien?
Ça va bien et vous? Je vous rappelle la question, Eddy.
Alors, c'est la question est quelle est la destination la plus recherchée en 2018 sur kayak.fr?
Ahmed, peut-être avez-vous la bonne réponse?
Je pense que c'est Tunis.
Eh oui, c'est la bonne réponse. Alors Ahmed, aujourd'hui vous avez le choix parce que aujourd'hui on fait pas gagner un guide sur une destination particulière. Est-ce que vous voulez gagner un guide? Alors soit sur le pays, vous pouvez prendre l'Algérie, le Maroc ou la Tunisie, ou bien sur les villes, vous pouvez avoir le Petit Futé Alger, ou bien Fès-Meknès, ou bien le Grand Sud marocain, ou bien Marrakech et Essaouira, ou bien Oran. Qu'est-ce que vous voulez?
Non, je préfère rester sur le guide de l'Algérie. Alors.
Ah, le guide d'Algérie. Eh ben on va vous envoyer ça d'ici une petite semaine.
Je vous remercie, c'est très sympa de votre part.
Merci à vous, Ahmed.
Bienvenue, notre charmante standardiste prend vos coordonnées hors antenne, Ahmed. Merci, très bel été. Monsieur Bourreïfa, on vous rappellera parce qu'effectivement, on a vraiment besoin d'informations sur ces nouvelles choses qu'ils sont en train de faire puisque, vous le dites, l'Algérie a une nouvelle volonté de devenir une destination touristique. Je vous rappelle également que vous pouvez vous connecter sur les moteurs de recherche. John Nicez, merci d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Kayak.
Kayak.fr, on rappelle pour les
auditeurs. Merci beaucoup.
Auditeurs.
Bonnes vacances à tout le monde.
Merci Eddy, à demain. Dans un instant, nous parlerons d'amour au 01 53 48 3000 pour vos petites annonces de l'amour.
Beurre FM, décalage immédiat,
Philippe Robichon avec Manuel Mariani.